Bonjour Daniel, ici c'est la manifestation des infirmières en colère. Les infirmières sont en colère. Les infirmières sont en colère. Elles veulent être reconnues pour le travail qu'elles font. Les infirmières sont en colère. Elles veulent être reconnues pour le travail qu'elles font. Les manifestations ne font que commencer.
Coucou, bonjour à tous, c'est Vincent. Qu'est-ce que c'était bien cette émission là, aujourd'hui, sur l'amour. C'était doux, c'était tranquille, c'était vraiment bien, tu vois, moi qui suis dans ma voiture, à rouler d'un point à un autre, j'ai envie de m'arrêter et de dire je vous aime.
Oui, j'appelle pour dire que j'ai écouté votre émission par hasard. Eh bien, c'est fait pour aller dans une porcherie avec des porcs. Ce sont des humains qui vous parlez. Au revoir.
Salut, c'est Tanguy, chauffeur routier. Ah, on va se régaler un petit peu, là. On va parler un petit peu de bonheur. Le bonheur de la PPAP, tu sais, la position parallèle au plafond. Enfin, quoi qu'on peut le faire debout ou accroupi. Mais je sens qu'on va se marrer. Merci, Daniel. Salut.
Bonjour, le répondeur. Je suis Nicole dans le Tarn. J'ai beaucoup de commentaires à faire. J'essaie de faire vite. J'entends votre émission concernant le sexe et je m'interroge à savoir si c'est les grandes conclusions du rapport là indiquant que les femmes se libèrent. Je me demande vraiment si c'est une libération ou si c'est une obligation, étant donné que maintenant le sexe c'est une obligation pour les filles si elles veulent garder leur chérie, leur fiancé. Il faut absolument que tout le monde soit en couple. Donc il y a une chose qui moi je me demande si vraiment les femmes apprécient autant que ça la fellation, les pénétrations anales, etc. Je pense que c'est la volonté des garçons qui s'impose de plus en plus et les filles veulent garder leur fiancé. Je voudrais savoir ce qu'en pensent les gens.
Colette, émission assez intéressante sur l'orgasme des femmes. Dommage qu'on ne parle pas de l'orgasme des hommes en même temps. Pour moi, non, c'est pas forcément le premier orgasme qui est le plus remarquable. Et l'orgasme suprême, c'est ensemble. Ensemble au point d'orgue. Ensemble. Et c'est comme toucher Dieu. Et le fait est que je n'ai pas les mots. Ce que je dis là, c'est peu à côté de ce que je ne peux pas dire, quoi. Simplement, il me semble étrange qu'une fille ait dit qu'elle savait plus, qu'elle n'était plus qu'un corps, qu'elle ne savait pas où était son âme, et elle ne savait pas non plus où était le garçon. Elle était toute seule, elle ne lui a même pas dit quel plaisir elle éprouvait. Ça m'a semblé assez triste. Pour moi, non, c'est les deux ensemble au point d'orgue. C'est peut-être pas comme les animaux, je n'en sais rien, bien qu'il y ait ce côté sauvage et violent, et doux aussi. Je n'en sais rien, je suis une femme, je suis pas un animal, je suis une femme, c'est comme ça. Pour moi, oui, c'est sacré. Ça va si loin, c'est si fort, c'est si... toucher Dieu. Alors, je ne sais pas qui est Dieu, en fait. Ah ouais, c'est sacré. Et j'ai beau... Oh, il se trouve que je suis poète. Eh bien, je n'ai pas les mots, en effet. Je n'ai pas les mots. C'était Colette. Paris. Au revoir.
Encore. Vous n'avez qu'à aller regarder à Rome la statue du Bernin pour comprendre tout de suite qu'elle jouit, Sainte Thérèse. Ça ne fait pas de doute. Et de quoi jouit-elle? Il est clair que le témoignage essentiel des mystiques, c'est justement de dire qu'ils l'éprouvent, mais qu'ils n'en savent rien. Ces éjaculations mystiques, ce n'est ni du bavardage, ni du verbiage. C'est en somme ce qu'on peut lire de mieux. Ce qui se tentait à la fin du siècle dernier, au temps de Freud, ce qu'il cherchait, toutes sortes de braves gens, dans l'entourage de Charcot et des autres, c'était de ramener la mystique à des affaires de foutre. Si vous y regardez de près, ce n'est pas ça du tout. Cette jouissance qu'on éprouve et dont on ne sait rien, n'est-ce pas ce qui nous met sur la voie de l'existence? Et pourquoi ne pas interpréter une face de l'autre, la face Dieu, comme supportée par la jouissance féminine?
Ben oui, effectivement, les mots peuvent tuer. Les mots peuvent tuer le plaisir. Moi, j'ai été femme. Enfin, j'ai eu mes règles très très tôt. Et les hormones ont suivi. Et j'ai eu un petit ami pendant 15 ans. Tout allait très bien. Ça a été un peu difficile ça, de me mettre en place, si je peux dire, parce que j'étais fort jeune. Puis après, bon, après 15 ans, je suis allée voir un peu ailleurs comment le soleil était. Voilà. Puis un jour, j'ai eu une bonne idée. J'ai fait une analyse. J'ai commencé une analyse. Et cette analyse m'a amenée à la parole. Et elle m'a privée à jamais. J'espère que ça va changer, mais ça fait depuis plus de 10 ans. Je n'ai plus jamais eu ni de désir, ni d'orgasme. Parce que cette personne m'a dit, sans doute sans malveillance, oui, bien évidemment, votre corps, j'imagine que ça va, parce que mon corps était parfait. Après, il a pris 20 kilos. Enfin, parfait, je ne me rendais pas compte. Il a pris 20 kilos. Maintenant, ça va un peu mieux, mais je ne l'ai pas retrouvé. C'est comme si elle me disait, c'est comme si elle m'avait traité de pute, pourtant j'adore les putes. Et la seule chose qu'ils n'avaient pas réussi à saccager, ben elle me l'a saccagé. Alors faites attention aux mots. Voilà.
Je téléphone, factuellement débute une grève de la faim de plusieurs militants, paysans, chercheurs, écologistes, ainsi qu'un jeune de nombreux militants pour demander, pour aider à demander un moratoire sur les OGM. Nous sommes en train de tracter pour faire signer un appel à moratoire devant l'hôtel de ville, mais ceux qui veulent éventuellement pouvoir nous soutenir le peuvent en se mettant en rapport avec la Confédération paysanne ou Greenpeace, et à ce moment-là, on leur dit, on les dirigera vers l'endroit où nous sommes. Cette grève de la faim est importante et montre la détermination des militants paysans et écolos pour ce moratoire. On n'en est plus aujourd'hui à demander immédiatement l'interdiction, mais au moins, on est très pressé à cause des premiers semis de printemps. On demande le moratoire sur le Monsanto 810. Merci et j'espère que ça passera. Merci, salut Daniel.
Le mot résister doit toujours se conjuguer au présent. Cette phrase est de Lucie Aubrac. On le dit depuis ce matin, vous le savez, Lucie Aubrac est décédée dans sa 94e année. Et on va lui rendre hommage aujourd'hui dans Là-bas si j'y suis, avec un entretien qu'elle nous avait accordé en février dernier, février 2006, évidemment accompagné de son époux Raymond Aubrac. C'est une heure qu'on va passer entièrement avec le souffle de la résistance, avec l'esprit de la résistance, mais non pas comme la résistance, comme une page à jamais tournée de notre histoire, mais au contraire, l'esprit de résistance toujours présent, toujours nécessaire, pas seulement comme une attitude morale, même esthétique, mais comme une nécessité absolue à la vie collective, à la vie démocratique, à la vie républicaine aussi. Donc un hommage à Lucie Aubrac et à tous ceux qui nous ont donné cet esprit de résistance et la force et le courage de lutter contre tout ce qui est la neutralité. Parce que cette neutralité qui neutralise, on va voir, on va se souvenir à quel point elle avait conduit notre pays dans une ornière fatale et noire dans ces années, dont Lucie Aubrac a été une figure héroïque qui a racheté, en somme, cette obscurité. Et on va, à travers ces voix qu'on va entendre, j'espère donner le goût, donner l'envie et faire comprendre et faire ressentir la résistance comme une nécessité et comme quelque chose qui doit se conjuguer au présent. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. Si j'y suis, vous avez remarqué ces réactions d'auditrices, beaucoup d'auditrices sur l'émission d'hier, sur l'orgasme féminin, suite à ce rapport qui a été publié et qui fait grand bruit dans les chaumières, dans l'intimité. Et on y reviendra sans doute la semaine prochaine. Aujourd'hui, donc, cet hommage et auparavant, encore quelques messages.
Bonjour, je suis Michel. Je crois utile de préciser que je suis prostituée. Ça a une importance peut-être dans ma réflexion à propos de l'émission que j'ai entendue aujourd'hui sur l'orgasme. Je trouve pathétique que des gamines de 17 ans voient l'orgasme, qui pour moi est lié à l'amour, envers et contre tout, de leur façon de les avoir entendu parler comme ça. C'est triste. Même une prostituée, elle ne jouit qu'avec l'amour quand elle est équilibrée. Il y a aussi des nymphomanes, ça existe. Enfin, d'une manière générale, je crois que les femmes ressentent l'orgasme ou les orgasmes que quand il y a de l'amour. Merci. Je ne sais pas si vous passerez mon message. Il va vous paraître probablement un peu démodé. En tout cas, je vous écoute tous les jours.
Bonjour, c'est Luc, camionneur. Je voulais réagir aux émissions de lundi et mardi sur les cancers professionnels. Jusque dans un passé récent, dans le transport, on refaisait souvent nos freins nous-mêmes. Il n'y avait pas de mécanicien, donc on faisait ça nous-mêmes. Et on s'entraînait pour faire ça. Et dans les freins, à l'époque, les garnitures de freins, il y avait de l'amiante. Et quand on démontait, bon, un grand coup d'air comprimé là-dedans, on mouchait noir pendant 2 jours. Ensuite, on nettoyait tout ça au trichloréthylène et on remontait. Et j'ai pas mal de copains qui ont été atteints d'un cancer et qui en sont d'ailleurs décédés, des cancers du poumon. Et la première chose qu'on leur demandait, quand le cancer a été avéré, c'est s'ils étaient fumeurs. Et dans le cas positif, quand ils répondaient oui, on leur disait ben ne cherchez pas, c'est le tabac. Et quand ils répondaient par la négative, vous n'avez pas de chance, c'est tout. Donc c'est peut-être une façon aussi de déguiser un peu les cancers professionnels. Et ça se fait encore. Hein. Voilà. Au revoir.
Seulement 11% des sociétés ne pratiquent pas la discrimination à l'embauche, nous dit France Inter ce matin. Alors, Monsieur Sarkozy, c'était vraiment nécessaire d'en rajouter une couche? Ce ne sont pas ces jeunes un peu trop bronzés qui ne s'intègrent pas, c'est plutôt les patrons qui, eux, ne les intègrent pas. Alors, ne nous plaignons pas s'ils cherchent leur revenu ailleurs. Bien que ça serve un État de plus en plus policier. Et ça plaît à Sarkozy, avec le circuit habituel, c'est-à-dire gros plan sur TF1 des violences. Bien sûr, aucune pénalité pour ces sociétés racistes. Taper sur l'individu, l'État sait faire. Mais taper sur le patronat, ça c'est une autre paire de manches.
Oui, bonjour à tous. Eh bien, je viens d'apprendre le décès de Lucie Aubrac. Eh bien, la France n'a pas fini d'être amnésique. Voilà.
Donc vous voudriez lancer un appel, vous lanceriez volontiers un appel à la grève générale?
Ah ben moi oui. D'abord toute ma vie, c'est... Moi je pense qu'une grève générale pour nettoyer... C'est une affaire générale, c'est toute la société qui est en cause. Si on s'occupe de la sécurité sociale, il ne faut pas qu'il y ait que les gens qui travaillent à la sécurité sociale qui vont se mettre en grève si on veut changer leur organisation. Mais il faut que, par exemple, les médecins soient aussi dans la grève, et les futurs malades. Si on continue de faire des grèves professionnelles, ça loupe.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec François Ruffin. Le mot résister doit toujours se conjuguer au présent. Lucie Aubrac.
Flight number 2, arriving from Tokyo.
La radio dissidente, les feuilles de la résistance commencent à marquer un certain affolement. Elles ont raison.
15 mars 44, Radio Paris, Philippe Henriot.
Depuis longtemps, nous nous acharnons à démontrer à ceux qui n'y croyaient pas que tout ce prétendu mouvement patriotique n'est en réalité qu'une effroyable entreprise montée par Moscou. On voudrait lui faire croire que les opérations entreprises par le gouvernement et les forces du maintien de l'ordre sont dirigées contre des patriotes. Le truc est maintenant éventé. Si des gens sont partis par patriotisme dans cette aventure, ils vont avoir bientôt la preuve de la détestable erreur qu'ils ont commise. Ils vont découvrir qu'ils n'étaient que des instruments et des jouets entre les mains de ceux qui avaient rêvé de tuer la France pour en faire une colonie rouge. Les sabotages, les assassinats se succèdent à une cadence de fièvre et de désespoir. On sent qu'il faut tenter un dernier effort, car les Français, dans un sursaut, viennent d'apercevoir le danger auquel ils ne croyaient pas. Le maquis, c'est, paraît-il, le rassemblement des patriotes. Mais les voleurs, les cambrioleurs, les meurtriers, est-ce l'avant-garde d'une armée de libération ou l'avant-garde des régiments rouges en prévision du fameux défilé sur les Champs-Élysées? Et maintenant, ricanez, messieurs les membres de la résistance, messieurs les chefs de bande, messieurs les communistes, ricanez, mais vite, car le temps vous est mesuré. La France va respirer. La France des braves gens, la France qui a pu se tromper, mais qui ne sait ni mentir, ni trahir. La France des pères de famille et des gosses imprudents, mais généreux, celle-là choisira entre mes textes et vos dénégations, entre le maréchal et De Gaulle, entre le gouvernement français et les gardes rouges.
Alors, on se trouve là avec Monsieur Raymond et Madame Lucie Aubrac. Mais je crois que Aubrac, c'est pas votre vrai nom.
Dans la résistance, on avait trois identités. L'identité de naissance, l'identité notée sur les faux papiers, qu'on présentait à tous les contrôles, et un pseudonyme sous lequel on était connu par les camarades. Alors l'identité de naissance ne changeait pas. Pour moi, c'est Raymond Samuel. Les faux papiers, il fallait les changer de temps en temps. Moi, j'ai eu à les changer seulement une fois, après avoir été arrêté par la police française et libéré. Et alors, le pseudonyme, on le changeait souvent. Et Aubrac, c'est mon dernier pseudonyme dans la résistance. C'est un pseudonyme que j'ai porté pendant quelques mois et que j'ai gardé parce que mes parents étaient arrêtés par la milice et la Gestapo fin 43. Ils ont été déportés, je ne savais pas où ils étaient, et donc au moment de la libération, je ne pouvais pas reprendre mon nom, sous le risque de faire prendre des risques à mes parents. Je ne savais pas qu'ils avaient été tués dès l'arrivée à Auschwitz, et donc j'ai posé la question au général de Gaulle quand il m'a nommé commissaire de la République à Marseille, et il m'a dit, bon, je vous conseille de garder Aubrac et vous régulariserez quand vous voudrez. Et je me suis trouvé devant le problème de régularisation, et maintenant, Aubrac est le nom officiel. Voilà l'histoire des noms.
J'ai sous les yeux une photo qui date de septembre 1944 et qui représente des jeunes de l'Union de la Jeunesse Juive incorporés au 1er régiment du Rhône. Et sur cette photo bouleversante, on voit au milieu, et la légende nous le précise, un certain Gustave, qui s'appelle en vérité Max Weinstein et qui vient d'avoir 17 ans. Et à sa droite, il y a Jojo, Joseph Farbiaz, qui a tout juste 15 ans. Et puis, de l'autre côté, un autre garçon et au premier plan, deux jeunes femmes, très jeunes femmes. Voilà ce qu'étaient les résistants. Bien sûr qu'on a célébré, ces dernières années, à nouveau, depuis la commémoration du Comité national de la résistance, on est revenu un peu à célébrer nos figures de la résistance, mais on a toujours vu des gens âgés, des hommes et des femmes mûrs, très mûrs même, alors qu'il s'agissait d'une jeunesse. Et Lucie Aubrac, toute sa vie s'est adressée à cette jeunesse. Et on voudrait que cette heure, on va l'entendre à nouveau avec Raymond Aubrac, soit dédiée et s'adresse à cette jeunesse. Pourquoi parler ainsi ? C'est qu'elle a voulu, ils ont voulu que l'esprit de résistance à laquelle, cette résistance à laquelle ils ont participé, dont ils ont été les acteurs, les militants, leur engagement a été total dans cette résistance, ne se limite pas à une période historique abolie. Récemment, encore tout récemment, Lucie Aubrac rappelait son engagement de résistance à l'ordre établi, et notamment à l'ordre libéral et à une classe politique ayant, disait-elle, le plus grand intérêt à ce que rien ne change. Elle avait signé en 2004 avec plusieurs autres figures de la résistance pour que les jeunes générations réagissent face à la destruction, disait-elle, je la cite, du socle des conquêtes sociales de la libération. Elle était âgée de 94 ans et elle avait soutenu l'initiative baptisée L'autre campagne, lancée par des chercheurs et des acteurs du monde associatif de gauche, dénonçant la vacuité des programmes politiques avant les élections présidentielles et législatives. Donc les voix qu'on entend, évidemment, il y a celle de Philippe Henriot, de 44, qui incarne la réaction, la collaboration la plus zélée, et la plus fervente et la plus fermée. C'est, je dirais, presque facile aujourd'hui de dénoncer ces voix anciennes. C'est beaucoup plus difficile de condamner les voix de la destruction des sociétés et d'une certaine humanité aujourd'hui. Et pourtant, ça a été jusqu'au dernier souffle le combat de cette femme que nous honorons aujourd'hui.
Comment on devient résistant ? Comment on décide de...
Et bon, ben nous, c'est trouvé en 40 l'occupation nazie. Et en plus, qu'il y avait des gens qui étaient arrêtés simplement, soit à cause de leur origine, soit à cause de leur opinion politique ou même philosophique. Ça suffit pour protester. La résistance, c'est une protestation. Alors, maintenant, ils ont des bombes pour écrire sur les murs. Nous, on avait des craies ou du charbon de bois pour dire les nazis dehors, pour dire à bas Pétain, pour dire vive la liberté. Eh bien, c'est ça la résistance. Ça commence par une protestation entre amis, ça continue par une forme extérieure d'aide à ceux qui sont en panne. Par exemple, Maximence, qui était le directeur d'Air France en 1940, était abondamment cherché par Vichy pour le livrer aux Allemands, parce qu'il avait d'abord la compétence d'un chef d'une grosse affaire. Air France était une des plus grosses compagnie d'aviation à ce moment-là dans le monde, et puis il était juif d'autre part et socialiste pour finir, ce qui lui faisait beaucoup d'occasions d'être arrêté. Et bien nous l'avons reçu chez nous, il a été caché chez nous pendant un temps, puis ensuite il est parti en Angleterre. Quelqu'un qui est mis dehors, qui n'a plus de travail parce qu'il est d'origine étrangère, il faut faire une collecte dans son usine où il travaille pour l'aider. Dans mon lycée, on a dû le faire aussi pour une fille qui était... Moi, j'étais prof pendant la guerre, et qu'il fallait aider parce qu'elle était d'origine polonaise, sa naturalisation n'était pas finie, et elle était renvoyée, elle n'avait plus d'argent, donc on s'est cotisé. Et maintenant, quand quelqu'un est résistant, quand on résiste, on devient des gens qui avaient l'âge qu'on avait, qui ont maintenant l'âge qu'on avait, nous, quand on a commencé, qui résistent, parce que résister, ce n'est pas un verbe qui vit seulement... dans le passé.
Parce que vous voyez aujourd'hui des gens qui résistent, vous voyez des formes de résistance.
Bien sûr. Dans un lycée, moi, ce que je connais, c'est le milieu scolaire surtout. Quand quelqu'un est injustement traité, les gens résistent sous forme de manifestation. Mais c'est une forme qu'il faut adapter la résistance à la période où on vit.
Vous n'aviez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Faisant déjà que cela passe vite 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit hirsute, menaçant l'affiche qui semblait une tache de sang. Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. À l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos morts pour la France. Et les mornes matins en étaient différents.
Comment on passe de cette résistance individuelle à une résistance plus collective ?
Personnellement, je trouve que on ne peut utiliser le mot de résistance qu'à partir du moment où il y a un début d'organisation. Donc, à l'origine, quand on fait les graffitis sur les murs qu'évoquait Lucie, on cherche à faire quelque chose, mais bon, on est individuellement résistant, bien sûr, mais ce n'est pas la résistance. Là, non, pour moi, la résistance, ça intervient dès qu'on est un peu organisé.
Et alors, comment vous avez rejoint le mouvement Libération Sud ?
On l'a créé, le mouvement Libération Sud. Nous l'avons créé, pas tout seul, mais avec celui qui en est le représentant et le patron, Dacier de la Vigerie, qui était un officier de marine, et puis Jean Cavaillès, qui était un professeur de philo à l'École normale supérieure, et puis un journaliste du journal La Montagne. Comment il s'appelait déjà ?
Rochon,
qui est mort en déportation, lui. Parce que quand vous êtes... C'est normal que Cavaillès, qui était dans l'université... Moi, j'étais au niveau professeur de lycée, et lui, à l'université, on se connaissait. On s'est trouvés sur la même longueur d'onde pour ne pas accepter la présence allemande, pour protester entre nous, parce qu'on ne pouvait pas le faire officiellement, on se ferait arrêter autrement. Mais entre nous, dans l'ensemble de l'université ou du lycée, contre un professeur révoqué parce qu'il est d'origine juive, par exemple. Ben, on est déjà deux, puis on en parle à son copain, on en parle à sa cousine, on en parle à un voisin qu'on connaît bien, à celui avec lequel on va aux réunions syndicales, parce qu'on n'était pas des isolés avant-guerre. C'est évident. Il y a ceux qui sont venus par patriotisme uniquement, ben, ils ont été plus isolés que nous parce qu'ils ont commencé par des actions individuelles. Tandis que comme on était, il faut bien dire, des gens qui avaient réfléchi, qui avaient déjà une idée sur ce que c'était que la liberté, ce que c'était que la République, qui avaient connu le Front populaire au moment où ils étaient étudiants, on ne savait pas qu'on créait un mouvement de résistance. On savait qu'on allait faire un tract, qu'on allait essayer de trouver, à le faire imprimer pour en avoir plusieurs centaines d'exemplaires, qu'on va demander aux copains de le distribuer, des fois en glissant dans des boîtes aux lettres ou en oubliant dans le tramway ou par l'intermédiaire d'amis qu'on connaît, un facteur ou un cantonnier ou quelqu'un qui veut bien, qui est d'accord avec nous. Ça a été le moyen d'expression qui a attiré. Donc il a fallu une organisation pratique de gens qui pouvaient trouver des imprimeurs clandestins ou des gens qui travaillaient dans une imprimerie après l'heure, des gens pour le stocker, ce petit tract ou ce petit journal. On fait le premier tract, mais comment on va l'appeler, ce premier tract, qui est grand comme une feuille de papier machine, si par hasard on arrive à faire une distribution, mettons dans un cinéma. au premier étage. Dans ce temps-là, il y avait des mezzanines et on était au premier étage au cinéma. Et le lancer sur l'orchestre, sur le bas. Ben, les gens, ils vont le jeter, ils vont le piétiner. Il faut trouver un titre. Les gens qui sont avant tout patriotes, ils vont s'appeler combat. Les gens, nous, intellectuels, déjà instruits dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie associative, on va s'appeler libération. Vous voyez, je vais vous montrer ça, à vous qui êtes journaliste.
Vous dépliez
un journal, c'est la moitié, la partie supérieure du journal L'Œuvre, qui est un journal de collaboration. Vous avez entendu parler de Montoire.
Bien sûr.
Même si pour vous, c'est un souvenir d'école, la rencontre Pétain. Quand vous voyez, les gens achètent ça parce que là-dessus, il y aura tout ce qu'il y a comme tickets d'alimentation qui vont permettre de vivre. Pétain et Hitler sur la même page.
Donc L'Œuvre, et le titre, c'est « L'entrevue du chancelier Hitler et du maréchal Pétain a eu un caractère décisif, collaboration franco-allemande voilà. ». Donc ça, c'est l'annonce de la collaboration d'État.
De la collaboration de Pétain. Eh bien, les petits journaux, voilà les dimensions de nos petits journaux. C'est pas grand.
Donc là, c'est marqué France d'abord, au drapeau, et puis il y a un poème de Victor Hugo, oui. À ceux qui dorment.
Je voulais trouver celui de Libération, je ne sais pas si je l'ai dans ce paquet-là. Je vois tellement peu clair. Celui-là, il s'appelle Valmy, je crois, oui, c'est ça. Ça, c'est des jeunes qui ont fait celui-là. Vous voyez ce que ça veut dire, que résister, c'est informer d'abord.
Notre pays traverse des jours qui compteront parmi les plus douloureux qu'il ait connus. Excité par des propagandes étrangères, un trop grand nombre de ses enfants se sont livrés aux maîtres sans scrupules qui font régner chez nous un climat avant-coureur des pires désordres. Ceux qui poussent la France dans cette voie invoquent leur prétention de la libérer. Cette prétendue libération est le plus trompeur des mirages auxquels vous pourriez être tenté de céder. Ceux qui de loin vous lancent des consignes de désordre ne participent pas au risque qu'ils vous font courir. Ils voudraient entraîner la France dans une nouvelle aventure dont l'issue ne saurait être douteuse. Français, quiconque parmi vous, fonctionnaire, militaire ou simple citoyen, participe au groupe de résistance, compromet l'avenir du pays. Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles. Vous précipitez la patrie dans les pires malheurs.
Ils ont désobéi, ils ont résisté. Impossible neutralité, nous disait l'historien américain Ward Zinn. Aujourd'hui, on célèbre à l'occasion du décès de Lucio Braque, morte hier à 94 ans, cet esprit de la résistance et cette impossible neutralité. Aujourd'hui, il faut une mort comme celle-ci pour que des mots comme militant, terroriste, résistant, engagé, extrême gauche, communiste, etc., reprennent un peu leur place dans notre histoire, celle bien souvent d'une résistance à un ordre établi, à un ordre dominant. La voix qu'on vient d'entendre, celle du maréchal Pétain, c'était la voix de la France, c'était la voix de la raison, c'était la voix qui de l'ordre. Eh bien, ils ont désobéi, ils ont choisi le désordre, ils ont choisi l'opposition, qu'il soit à l'époque communiste ou qu'il soit gaulliste. Aujourd'hui, donc, on entend, on écoute encore, espérons-le le plus longtemps possible, ces voix qui traversent aussi l'histoire de notre pays et qui nous parviennent aujourd'hui en disant il faut adapter la résistance à l'époque où l'on vit.
On peut dire que le système de production et de distribution du journal clandestin, c'est le squelette des mouvements de résistance.
C'est-à-dire qu'on commence par diffuser des idées du papier et ensuite ça va pouvoir se transformer en autre chose et éventuellement en une organisation armée.
La première chose qu'on distribue, c'est de l'information. Par exemple, les Allemands nous annoncent fin 40 que la semaine prochaine, ils vont envahir l'Angleterre et que c'est certain. On raconte même des histoires d'invasion. Et finalement, nos journaux clandestins, ils ont été acceptés et utilisés et diffusés et répandus parce qu'ils contenaient des informations. Alors c'est en même temps de l'information et de la propagande. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que nous pouvons faire, voilà ce que nous avons fait. Ça ouvrait non seulement une petite fenêtre sur la vérité, mais aussi une fenêtre sur l'espoir. Il fallait que les gens se remettent un petit peu à espérer.
Raymond, une fois, raconte-là l'histoire de ta valise de journaux sur Grenoble.
Oui, c'est un petit incident. On imprimait le journal à Lyon, il fallait le transporter. À Grenoble, nous avions un système de distribution dirigé par Madame Gonnet, la cousine, femme.
Oui, on l'appelait la cousine, c'était la femme d'un magistrat.
Et j'ai pris la valise et j'ai pris le train. Donc j'ai installé la valise dans un filet de compartiment et je me suis poliment éloigné dans le couloir. Et on est arrivé à Grenoble, j'ai été chercher ma valise, elle avait disparu. On avait volé ma valise. Alors je suis rentré à Lyon, pas très fier, j'ai dit à mes camarades, on m'a volé ma valise. Et 8 jours après, la cousine nous a envoyé un message en disant « Les journaux ont été distribués ». Le voleur, quand il a ouvert la valise et qu'il a vu ce que c'était, l'a abandonné dans une salle d'attente. Les cheminots ont pris la valise et ils ont distribué le journal.
On l'a su par les cheminots, ils ont distribué le journal.
Donc ça veut dire qu'il y a des tas de solidarités qui existaient, mais dont vous n'aviez pas vous-même conscience, mais qu'il y avait des forces qui étaient...
On savait que virtuellement, la solidarité était là. On savait qu'on allait dans le sens de ce que les gens voulaient.
Mais on ne doutait pas que ça serait distribué, Raymond.
Mais naturellement, la résistance ne se limite pas à la préparation de journaux clandestins. Et il y a quelques formes d'action qui apparaissent très vite. Il y a des sabotages, chaque fois qu'on peut, même des petits sabotages, mettre du sucre dans des réservoirs de camions allemands.
Ça, vous l'avez fait, par exemple ?
Oui, bien sûr. Il faut penser aussi à l'aide à des prisonniers évadés. Ce qui a été mon cas, d'ailleurs. J'ai été prisonnier de guerre, je me suis évadé. Donc, il y a cette activité multiforme, pas très organisée au début,
bien entendu. On fabrique des faux papiers. Les faux papiers, une fois que vous avez aidé quelqu'un et qui a un nom à coucher dehors, qui est espagnol ou polonais ou n'importe quel pays dont la France ne veut pas, il faut qu'il ait des autres papiers, autrement il va se faire arrêter. Ben, on a des organisations qui fabriquent des faux papiers.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a une presse qui est dominée soit par des grands groupes financiers ou industriels, est-ce que vous pensez qu'il y aurait la nécessité de lancer le même genre de petits journaux qui apporteraient une information dissidente ?
Il est probable qu'il en existe, mais c'était beaucoup plus simple à l'époque. Hein. C'était beaucoup plus simple parce que l'adversaire était là. L'adversaire occupait le terrain, l'adversaire faisait souffrir chaque individu, chaque famille. On pouvait concentrer la critique, les attaques sur un adversaire visible, reconnu par tout le monde. Et donc on avait un ennemi commun. Alors actuellement, l'ennemi commun, il est beaucoup plus difficile à discerner.
Comment on transforme une lutte de libération nationale en une lutte qui va avoir un contenu avec des propositions politiques, sociales?
Une des missions très importantes de la résistance, à mon avis, c'est d'avoir restauré l'espoir. Et en même temps qu'on parle de l'espoir, de l'espérance, on commence à esquisser l'avenir.
On a expliqué à ceux qui étaient contre ce qui se passait mais qui ne bougeaient pas, attention, on va préparer un programme et on va être les maîtres, on va les chasser. Première chose, il faut chasser les nazis. Deuxièmement, il faut se débarrasser de Pétain. D'ailleurs, il va partir sur les talons d'Hitler, c'est ce qui s'est passé. Et puis, troisièmement, on va refaire une France libre, démocratique et égalitaire. C'est ça. Et le programme du Conseil national de la résistance, il envisage les droits des gens sur le plan de la santé, sur le plan du travail, et sur le plan de l'éducation. L'enseignement secondaire gratuit, libre pour tout le monde. Il n'y a pas de concours pour y rentrer. Ce n'est pas une sélection d'une certaine bourgeoisie.
Et ça, pour vous, c'est le fruit de la résistance?
C'était ma vie principale, parce que je suis d'une famille d'agriculteurs qui travaillaient vraiment leur vigne et la terre. Et je n'ai jamais été dans un collège et un lycée. Ils n'avaient pas les moyens de m'y mettre. Si je fais des études supérieures, c'est parce que j'en avais envie, que j'ai gagné ma vie pour avoir mon bac, pour passer mon bac en auditeur libre, ce qui n'était pas commode, et puis tous les degrés pour arriver à l'agrégation d'histoire. Mais la sécurité sociale, c'est extraordinaire. L'âge du travail, toutes ces choses-là, ça a été déjà réfléchi et commencé de mise en route sous le Front populaire, sous le gouvernement de Front populaire de Léon Blum. Puis après, ça a été très vite le grand patronat, tout ça, ils ont gagné, bien sûr. Mais ça ne voulait pas dire que c'était définitivement foutu. Et les ouvriers, regardez les cantines, la cantine chez Renault, que les ouvriers n'aient pas à transporter leurs gamelles pour manger à la va-vite sur leur machine en travaillant leurs 8 ou 10 heures, mais qu'il y ait un système dans les usines. Et la sécurité sociale, vous vous rendez compte, vous voyez bien comme tout à la libération, on a déjà vu l'application du programme du Conseil national de la résistance.
Aujourd'hui, nous voulons vous rappeler ce que, dans leur dernière réunion, ont décidé les représentants de toutes les organisations de résistance groupées au sein du Conseil national, en vue de l'action immédiate, former des comités dans les villes, villages et entreprises, et y enrôler les patriotes non encore organisés. Tous les comités ainsi constitués doivent être placés sous le contrôle du Conseil national de la résistance en attendant le déclenchement des opérations. Ce sera notre destin d'avoir vécu en des temps historiques. L'an prochain, nous pourrons penser au Muguet. Aujourd'hui, il n'est de pensée que pour la guerre, il n'est de chant que ceux de la résistance.
Lucie a cité l'éducation, la santé. Ben moi, je voudrais souligner ce que j'ai vu de mes yeux au moment de la libération dans la ville de Marseille. La ville de Marseille est très très durement touchée par la guerre. Le port est en grande partie détruit, à 70% au moins. Et beaucoup de patrons ont disparu. Et voilà des usines dont la direction n'est pas là. Eh bien, à ce moment-là, la volonté collective, l'élan vital de la population fait que les ouvriers décident qu'il faut continuer de travailler. C'est la raison pour laquelle j'ai été amené à prendre des réquisitions des plus grandes entreprises de la ville de Marseille. Et à partir du moment où ces gens qui voulaient travailler ont compris qu'ils ne travaillaient plus pour faire des bénéfices pour des actionnaires, mais qui travaillaient pour aider à reconstruire le pays, à gagner la guerre d'abord, la guerre n'était pas finie, et ensuite à reconstruire le pays, ben on a eu ce phénomène assez étonnant des réquisitions d'entreprises. C'est un signe de l'élan vital.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des réquisitions qui étaient opérées par vous à la demande des salariés, et des salariés qui travaillaient parfois 80-90 heures par semaine, c'est ça?
À partir du moment où la loi de réquisition a été appliquée, j'allais dans des usines et je voyais des grandes banderoles, la notion de service remplace la notion de profit. Et les gens travaillaient, de toute évidence, par exemple ceux qui réparaient les locomotives, ils travaillaient parce qu'on avait besoin de ces locomotives, un besoin vital. Et c'est pour ça que, en effet, les ouvriers ont décidé, à certains moments, de travailler 60 heures, 70 heures par semaine.
Ceci dit, la parenthèse s'est vite refermée aussi.
C'est certain, il y a eu Le système s'est remis en place, mais ce que je voulais souligner, c'est cette marque d'élan vital. Pour moi, c'est très important. Pour moi, ce qui est très important, c'est que la libération est accompagnée d'un énorme élan vital dans la population. On est pauvre, on est blessé, on est en partie détruit, on manque de tout. On avait 1000 difficultés simplement pour remplir l'assiette des gosses à table. Mais on a de l'élan vital. C'est probablement ce qui manque le plus actuellement dans notre pays. C'est ce qui me frappe le plus. On savait qu'on voulait faire, des choses. On arrivait à les faire petit à petit. On savait que nos enfants vivraient mieux que nous. Ça n'est plus vrai maintenant. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'espérance claire.
Et comment vous expliquez cette morosité aujourd'hui ?
Je ne sais pas pourquoi. Les journalistes, et notamment les journalistes de la télévision, n'ont dans leurs émissions d'information que des catastrophes. On ne nous montre que des drames. Tout va mal, tout nous menace. On nous fait peur. On fait peur aux individus. C'est une méthode. Je ne sais pas si c'est un levier politique, mais on instille la peur chez tous les gens. Donc, à partir du moment où les gens ont peur, ils sont frileux, ils ne bougent plus. Le seul espoir des gens, maintenant, c'est la sécurité.
Et c'est la peur aussi qui a été instillée pendant la guerre ou...
Les gens qui occupaient le pays essayaient de gouverner par la peur, et nous étions, amenés tout naturellement à réagir et à essayer d'expliquer que... On pouvait faire quelque chose, on ne devait pas se laisser paralyser par toutes les menaces et toutes les catastrophes annoncées par le pouvoir.
Et c'est pour ça que je trouve qu'il vaut mieux, c'est terrible la déportation, mais vaut mieux expliquer ce que Raymond appelle l'élan vital, c'est-à-dire les gens qui s'engagent, qui résistent pour une cause ou pour une autre, simplement transporter un petit journal, que de parler de... des tortures, de la mort, que de parler de tout ce qui nous a été imposé, qui nous a tellement meurtris et qui a détruit des gens de très grande qualité.
Adieu, la peine et le plaisir. Adieu, les roses. Adieu, la vie. Adieu, la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard, en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle. Que le cœur me fend, la justice viendra sur nos pas triomphants m'améliner, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, mais nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 la France en s'abattant.
Les paysans qu'une propagande mensongère essaie de faire croire hostile nous aident de leur mieux.
Lucie Aubrac, Radio Londres, mai 44.
Ils nous vendent à la taxe les denrées indispensables à notre vie. Nous vivons dans une atmosphère de camaraderie et d'entraide. Les journées passent lentes. Une discipline stricte un emploi du temps suivi permettent de maintenir le moral. L'entraînement militaire fait de chacun de ces jeunes gens un bon soldat. Chacun a conscience, dans cette armée sans uniforme qui mène son combat sur le sol de son pays, d'être avec ses alliés un artisan de la victoire. Ils me le disent quand je les quitte. Nous sommes en guerre, nous sommes soldats, avec un ravitaillement difficile en armes, en vivres, en équipement. Nous livrons une bataille sans jamais connaître la détente d'une permission ou le repos à l'arrière.
Ce qui m'inquiète et me fait peur un petit peu dans cette société, c'est l'aspect marchand. Les sentiments profonds qui nous sont instillés par la société, c'est d'acquérir quelque chose. On voudrait avoir quelque chose de plus. L'appétit qui est créé, on ne peut pas le satisfaire. Tous les efforts qu'on fait, c'est pour améliorer, pour acheter une chose dont on a envie. C'est ça qui polarise les gens. Les gens sont polarisés par les besoins qui leur sont créés.
Il faut que je regarde un peu la publicité. Peut-être que je pourrais changer mon auto cette année. Peut-être que si je voyais le défilé de mode, les gens sont pris par la société de consommation maintenant.
Et vous croyez que cette instillation de la peur, elle permet de préserver l'ordre? L'ordre d'hier, c'était l'occupation. L'ordre d'aujourd'hui, ça serait l'ordre marchand. Vous pensez que ça permet de maintenir les sociétés en l'état?
Moi, j'en suis persuadé. Attention, ne bougez pas, faites-nous confiance, on s'occupe de tout, on contrôle tout. Ouais. C'est ça l'essence de notre société actuelle.
Au temps de la résistance, on ne regardait pas d'où on sortait, qu'on soit prof ou qu'on soit ouvrier ou vendeuse dans un magasin, on avait le même combat. Maintenant, quand les chemins de fer se mettent en grève, les employés des magasins ou les employés d'une usine, ils ne se mettent pas en grève, les autres ouvriers. Il n'y a pas la solidarité de la grève. Ça fait que les autres font leur petite grève ou leur grande grève individuellement et que ça indispose tout le monde. Parce que si c'était une grève générale, eh ben, tout le monde serait concerné. Il n'y a pas de grève générale.
Donc vous voudriez lancer un appel, vous lanceriez volontiers un appel à la grève générale?
Ah ben moi, oui. D'abord, toute ma vie, c'est... Moi, je pense qu'une grève générale... Pour nettoyer, c'est pas une affaire qui doit se régler comme ça, morceau par morceau, boutique par boutique. C'est une affaire générale. C'est toute la société qui est en cause. Si on s'occupe de la sécurité sociale, il faut pas qu'il y ait que les gens qui travaillent à la sécurité sociale, qui considèrent que ils ont un travail, ils le font bien, et ils vont se mettre en grève si on veut changer leur organisation. Mais il faut que, par exemple, les médecins soient aussi dans la grève. Et les futurs malades. Si on continue de faire des grèves professionnelles, ça loupe. Et tout ça se passe par petits morceaux. Nous, Jean Moulin, qu'est-ce que vous savez, il en a bavé pour faire l'accord entre combat, franc-tireur et libération, les trois gros mouvements de résistance de zone sud. Il y en a un qui était très curé, si je peux dire. Enfin, curé, c'est une façon de parler. Il y en a un autre qui était très militaire et puis un autre qui était plutôt socialiste, le nôtre. Eh bien, on a fait les murs, Mouvement Uni de la Résistance.
Voilà, hommage donc à Lucie Aubrac. Et avec la voix aussi de Raymond Aubrac, c'était un reportage de François Ruffin, réalisé en février 2006. Je vous signale, on a entendu une version de l'affiche rouge par Babix. Je vous signale que ce soir, sur France 2, sera diffusée la traque de l'affiche rouge, justement, un documentaire de Georges Amat et Denis Péchanski sur l'histoire de l'affiche rouge. Mais quelque chose qu'on peut rapprocher de ce qu'on vient d'entendre, c'est ce qui se passe dans ce village breton, cette solidarité avec des sans-papiers maliens. Je crois que c'est pas mal de rapprocher deux informations comme celle-là en hommage à celle qui vient de disparaître. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur là-bas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Rémi Kentsez et Julien Dumont. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry. Et Christophe Imbert est au répondeur, se tient près du répondeur où il attend vos messages au 01 56 40 37 37.